Ici Radio Grand Ciel, notre studio de Châteaudun pour notre émission mensuelle Histoire et Mémoire à la régie Henri. Et c'est Jean-Claude qui va à nouveau mener le débat, car Jean-Claude, c'est un de nos grands spécialistes de l'histoire locale de la région de Châteaudun. Aujourd'hui, il va nous parler d'une entreprise qu'il connaît particulièrement bien, l'entreprise Pasquier, dont la spécialité c'était la confection, les robes, les tissus, les belles choses pour les dames en particulier. Et il a près de lui une dame qui était très investie dans son entreprise. Je n'en dis pas plus, Jean-Claude va nous raconter tout ça.
Oui, bonjour. Il est bien certain que lorsqu'on lit le livre des industries dunoises, on ne remarque qu'une dizaine de lignes pour parler de l'entreprise Gérard Pasquier. Et oui, il a existé à Châteaudun une entreprise Gérard Pasquier. Ce monsieur qui était un styliste de renom, qui était né en 1925, avait décidé en 1966 d'ouvrir une autre unité à Châteaudun. Et pour cela, il avait pris des contacts avec le sans rival. Et puis, dans le même temps, s'est installée à Châteaudun une demoiselle, Geneviève, qui est arrivée et qui a rencontré, donc, monsieur Pasquier. Geneviève était elle aussi de ce métier, diplômée du lycée de Val-de-Bièvre à Gentilly en prêt-à-porter et flux industriel. Elle répondait parfaitement au profil que recherchait Gérard Pasquier. Alors racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, votre première rencontre en 1966 à l'automne avec Gérard Pasquier.
C'est pas avec Gérard Pasquier que j'ai eu mon rendez-vous.
D'accord.
C'était donc au Sans Rival. Je m'étais inscrite au Sans Rival, étant donné que je venais de me marier. Et donc, j'ai été embauchée par Monsieur Bateau, qui était donc le directeur de l'usine de Saint-Aignan, qui fabrique.
Sans rival, c'était un magasin de prêt-à-porter à Châteaudun.
Voilà, le magasin de prêt-à-porter. Il faisait les costumes. Et donc, il a eu des contacts avec Gérard Pasquier.
Rue de la République, il existe encore ce
Voilà,
magasin.
ce magasin existe encore, oui.
Donc c'était le grand magasin du sans rival à
Voilà,
l'époque.
donc je m'étais inscrite là, étant donné que je venais de me marier. Et puis, on m'a proposé donc de faire la démarche auprès de Gérard Pasquier. Et j'ai eu affaire donc à Monsieur Bateau, qui était directeur à Saint-Aignan, qui nous a fait donc on était trois pour
Trois jeunes
faire
femmes
trois
qui.
jeunes femmes donc qui ont démarré donc à Saint-Aignan pour connaître les produits et la fabrication.
Donc ça veut dire que vous êtes allé en stage.
On est parti en stage pendant un mois à Saint-Aignan, toutes les trois. Donc il y avait Madame Barré, Madame Robert Dufoy et puis moi-même, Geneviève Calerne.
Et je dis à vos départ, vous aviez déjà eu personnellement une formation
Ah oui,
dans
mais
la couture.
oui, j'avais eu une formation dans la couture, donc j'avais eu mon au lycée donc de Gentilly, et puis j'avais travaillé donc chez Eco à Paris et en confection, non pas en confection donc, et en haute couture avec Marc Vaughan.
Oui, Marc Vaughan, c'était un des couturiers du Triangle d'Or, faut le dire, rue François 1er,
Voilà.
que vous avez tout près, donc ce qu'on appelle le Triangle d'Or, avec l'avenue Montaigne, des voisins prestigieux comme Dior, comme Courrèges, comme Chanel, Balmain et même Givenchy.
Voilà.
Donc c'était quand même des références.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai confectionné, je me rappelle, j'avais travaillé pour la mère de Françoise Hardy. On travaillait pour des gens de qualité, quoi.
Vous les habillez évidemment sur mesure.
Sur mesure, oui. Ouais. C'était du sur-mesure. Alors que, bon, le prêt-à-porter, ça date à tout le monde, quoi. On peut...
ouais. Éventuellement, on peut faire des retouches au prêt-à-porter.
Prêt-à-porter, oui, mais ce n'est pas fait par l'entreprise. Oui. Les retouches ne sont pas faites. Vous avez un standard dans le prêt-à-porter. Dans le prêt-à-porter, vous avez un standard. Et puis, la personne qui va acheter, par exemple, un vêtement, fera faire ses retouches par une couturière. Oui. Elle achète le produit. Oui. En principe, ça colle assez bien à la silhouette. Hein.
Et le magasin qui vend le vêtement peut lui-même faire des retouches,
peut-être dans
certaines conditions.
Peut-être que dans... Non, je ne pense pas. Hein, dans les confections... peut-être que dans les boutiques, il faisait quelques retouches.
Maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Avant, donc, c'était un métier très, très courant.
Ouais.
Mais maintenant, donc, ils ont tendance, comme on les fait fabriquer très loin, ils ont tendance à vendre ces produits-là à des prix donc, très bas. Et ils ne peuvent pas payer des retoucheuses. Quoi. Ouais, c'est le problème. Quoi.
Nous, on vendait... Il y avait une petite boutique, quand même, à route de Sangeville.
Non, mais avant la route de Sangeville, on va quand même dire...
Oui, oui.
Nous avons connu à Châteaudun le départ donc, de cette entreprise Gérard Pasquier. Et vous avez démarré un lundi matin. Où ça? À la salle
Touffert.
Rue Touffert, à la salle Saint-André.
Salle Saint-André, rue Touffert. Oui.
Voilà.
Et donc...
comment ça s'est passé?
C'est moi qui ouvrais la porte. Le lundi matin, c'est moi qui ouvrais la porte.
Donc la première fois...
Oui, voilà. J'ouvrais la porte et donc les personnes qui étaient embauchées se dirigeaient vers leur machine. Et puis j'avais à faire les inscriptions. Je faisais les inscriptions. Et après, donc, on a eu une contre-maîtresse, Madame Chausspied, qui est venue. Alors, les articles arrivaient en tas. C'était le long du mur. On nous mettait tous les vêtements, toutes les pièces des vêtements mélangées. Il fallait tout trier. Et puis le lancer en chaîne.
Elles étaient coupées, elles arrivaient coupées.
Ils arrivaient coupées. On a commencé par faire des jupes. Hein, c'est Saint-Aignan qui nous envoyait. Donc, étant donné qu'on avait vu, on avait eu une formation déjà d'un mois. Donc, on était passé partout. Hein, on était passé dans tous les postes. Et donc, on triait les articles et on les lançait en chaîne.
Et vous faisiez l'assemblage, quoi.
Et on commençait l'assemblage.
Combien vous étiez à la salle Saint-André?
On a commencé petit, hein. On a commencé petit, je ne sais pas, on avait peut-être une trentaine de personnes.
Hein. Au maximum une trentaine de personnes.
Oui. Donc répartis dans les différents postes, parce que quand vous avez le montage, vous avez beaucoup de postes à pourvoir. Hein. Donc on avait beaucoup de jeunes. On a eu beaucoup de jeunes et de jeunes femmes.
Hein. Et c'était déjà une salle qui appartenait à la municipalité et qui avait été mise à votre disposition.
Voilà, c'est ça.
Et pendant combien de temps vous êtes resté?
Alors, donc on a dû commencer en octobre.
En octobre 66.
Et puis, la construction du nouveau bâtiment a dû se faire en 67.
67.
Oui, parce que 68. Moi, quand je suis rentrée de maternité, je suis allée dans le nouveau bâtiment. Donc,
c'est fin 67, début 68, quoi. C'est ça, quoi.
Fin
67.
Ouais.
Donc, c'est une usine moderne.
Oui.
Qui était construite à l'époque.
Ouais, c'était tout récent, tout était neuf. Donc, étant donné que les articles arrivaient coupés, Gérard Pasquier a voulu donc améliorer sa gamme et a commencé à créer des chemisiers. Voilà, donc on était sur des jupes qui arrivaient de Saint-Aignan, coupées. Et donc on nous a demandé de faire une coupe, de prévoir la coupe au moment où je suis rentrée. Donc, je me suis dirigée vers la coupe.
Vous parlez du site de Saint-Aignan. Où était-il situé?
Rue Louis Appert. Et aujourd'hui, c'est la Champ-Équinel qui est dans ces bâtiments, à côté du CEFAMREC, à côté du centre de formation des apprentis.
Mais avant, vous parlez, venez de Saint-Aignan, c'était une autre...
Une autre usine.
Oui, c'était la première usine que Gérard Pesquet a ouverte avec comme directeur M. Bateau, qui était un avocat, je crois que c'était... Il était avocat et donc le monsieur Pasquier l'avait donc mis pour diriger cette entreprise.
Et c'était dans quel département? Saint-Aignan?
Saint-Aignan.
Loire-et-Cher.
Loire-et-Cher, oui.
Saint-Aignan-sur-Cher?
Oui, Saint-Aignan-sur-Cher. À côté de Montrichard.
Oui. Hein. Ouais.
Ouais. Et donc, vous avez donc dit tout à l'heure, donc Madame Chausse-Pied qui venait de
Saint-Aignan.
Et puis vous avez eu après un nouveau directeur qui est arrivé, Monsieur Dordogne.
Dans l'autre entreprise.
La nouvelle entreprise.
Dans l'entreprise de Sangeville, oui. À Sangeville, on a eu donc l'arrivée de... je sais pas, au bout de peut-être un an quand même, hein, ou deux ans. Donc, on a eu un nouveau directeur qui s'appelait Monsieur Claude Dordogne, qui est venu avec donc sa contremaîtresse et son mécanicien. Donc, Madame Chausse-Pied est partie et a été remplacée par Madame Couturier.
D'accord. Donc, vous étiez à l'époque une des responsables. Donc,
à la coupe, on a eu un chef de coupe qui s'appelait Monsieur
Simonet.
Monsieur Simonet et moi. Donc,
et vous étiez son adjoint.
Voilà, j'étais son adjoint. Ouais. Donc la coupe, on faisait tout. Il y avait le magasin, donc on regardait s'il n'y avait pas trop de défauts, on visionnait les pièces. Donc c'était des produits de qualité, hein. Toujours, on était très axé sur la qualité, qualité du tissu, qualité de la fabrication.
Et d'où venaient les tissus?
De France, du Nord, souvent, oui. C'était suivant l'article, c'était des tissus de fabrication française. Et puis après, donc, bien sûr, il y avait aussi d'autres pays, bien sûr, mais...
Donc vous faisiez des pièces, évidemment, parce que vous avez fait, je crois, les chemisiers, tout ça, donc un chemisier, c'est complexe, ça a beaucoup de pièces.
Voilà, tout dépend de la fabrication, enfin, tout dépend du modèle, la création, d'abord. Donc la création se faisait à Paris, donc les modélistes étaient à Paris, et nous recevions les gabarits, les patronages. Donc le premier patronage, on recevait. Oui. Puis après, la graduation avec les tailles. Et l'achat, par exemple, d'un même chemisier, vous aviez donc différentes tailles. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il n'y avait pas beaucoup de retouches, parce que c'était suivant les tailles de vendus, on faisait des placements. Ces placements-là nous permettaient de lancer la série.
Et de pouvoir couper...
Donc, on faisait un placement. Ce placement-là, on le donnait après au matelassage. Et donc, la personne qui était au matelassage matelassait donc un nombre de feuilles sur les longueurs, sur les tailles correspondantes. Et puis après, c'était débité.
Oui, parce qu'évidemment... c'était fini l'image qu'on avait de couper le vêtement avec des ciseaux.
Ah non, on ne coupait pas avec les ciseaux. On était équipés de matériel performant.
Donc vous coupiez par exemple 100 chemisiers d'un seul coup.
On coupait, oui, 100, 120. Tout dépendait de l'épaisseur du tissu. Si le tissu était fin, on allait jusqu'à 120. Ça pouvait arriver qu'on matelasse 120 feuilles sur une même taille. Hein. Et puis après, on collait un papier avec la forme des chemisiers dessus. Et après, ça passait au tronçonnage. Donc oui. Le tronçonnage, c'était une machine tip-top.
Mais avant, je suis néophyte, mais le tissu, quand vous faisiez les placements, oui. On ne fait pas ça n'importe comment.
Il y a des sens, il y a les sens du tissu. Le sens aussi, si c'est un imprimé, il peut très bien y avoir une fleur avec une tige, donc il faut respecter le sens du tissu. Il faut que lorsque la femme a le vêtement sur le dos, elle n'a pas la tige de la fleur en l'air par rapport... donc tout ça, c'était fait au niveau du placement. Donc les placements, c'était important. Il ne fallait pas oublier un morceau non plus. Hein. Il fallait faire attention à ne pas oublier un morceau. C'était toujours...
Donc oui, donc le placement était
le sens,
important.
Le sens,
oui, il y avait.
Il y avait une question de la lisière du tissu, enfin les largeurs de tissu aussi. Il fallait faire attention, de façon à utiliser au maximum le tissu et placer les morceaux de façon qu'ils s'emboîtent le plus possible, même s'il y avait un sens, de façon lorsqu'on travaillait un carreau ou un modèle qui devait se raccorder, parce que l'accord des... Quand vous achetez un vêtement, si vous avez des lignes qui sont... Par exemple, si vous avez des lignes au niveau des manches et puis du devant, vous avez intérêt que les lignes se raccordent. Donc tout ça, c'était vu au niveau du placement.
Et vous aviez donc... une question, c'est quoi le droit fil quand on dit...
Le droit fil, donc c'est la trame. Votre tissu, vous avez des fils de chaîne et vous avez des fils de trame qui sont passés au niveau du tissage. Et si vous avez des tissus qui sont mal tissés, il faut faire attention parce que votre vêtement va être de guingois sinon. Il va mal se tenir. Donc il faut faire attention au droit fil.
Ouais. Et puis les matières.
Alors vous avez le sens de la chaîne, qui est le sens qui est important parce que si vous voulez que votre vêtement il se tienne, vous devez travailler dans le sens votre vêtement, la hauteur du vêtement doit se trouver au niveau de la chaîne. Et le bas du vêtement se trouve au niveau de la trame. Et voilà. Et vous avez du biais aussi.
Et pour le même modèle, vous aviez bien sûr plusieurs tailles et vous deviez peut-être programmer les machines en fonction de la taille.
Donc, on avait plusieurs tailles. Donc, suivant la quantité vendue, on pouvait regrouper, par exemple, la taille 42 avec la taille 44 ou la taille 40, de façon à avoir un matelas, un gain de place supérieur. On regardait toujours à gagner le maximum de tissu. Quoi. Ouais.
Et vous aviez de beaux tissus.
C'était de très belles qualités. Ouais.
Très belles qualités, différentes matières, bien sûr.
Ah, bien sûr, oui. Tout dépendait de la modéliste, ce qu'elle avait prévu de faire. Et donc, si c'était un coton, si c'était une soie, si c'était... Voilà, tout dépendait.
Vous suiviez la mode, et donc pratiquement un an ou six mois avant, vous prépariez la mode.
Mais il y avait une collection qui était faite, comme dans tout couturier, hein, que ce soit par les même les que ce soit n'importe quel couturier, il va prévoir sa gamme pour l'année pratiquement suivante. Hein.
Ouais. Et dans vos modèles. La fameuse fermeture éclair qui est arrivée progressivement, ça faisait pas très classe. Elle devait pas avoir la cote dans vos modèles.
Ben disons que nous, les fermetures éclair, c'était donc des fermetures éclair, c'était surtout pour les jupes. Hein. Donc c'était surtout la fabrication de Saint-Aignan. On a commencé par fabriquer des jupes aussi. Hein. Et le Gérard Pasquier était reconnu au niveau de ses plissés. Vous aviez des plissés qui tenaient bien et avec des qualités de tissu vraiment très belles.
Oui, parce que Gérard Pasquier a été connu en 1953
pour ses jupes,
grâce à sa fameuse jupe plissée, voilà. Éponine.
Et voilà, les belles qualités, fabrication impeccable, oui. C'est ce qui a donné le succès immédiat de Gérard Pasquier.
Et est-ce qu'il y avait des magasins Gérard Pasquier, par exemple, à Orléans ou...
Alors, vous avez un...
Pour la vente ?
Pour la vente, il y avait donc il y avait une petite boutique. Il y avait des petites boutiques dans les entreprises qui... Il y avait déjà des petites boutiques, mais vous aviez un gros centre à Bougies.
Le centre de distribution.
Voilà. Et sinon, ils vendaient quand même.
Oui, mais sinon, il y avait des boutiques en France. Ah, ben, 50 bien sûr. Points de vente en France.
Oui, oui. Oui. Il existe toujours. Hein. C'est toujours. Ah, oui, ça existe toujours.
Ouais. Et les Dunois pouvaient venir acheter à l'entreprise.
Rue de Sangeville, il y avait une boutique, oui. Et donc, il y avait les personnes qui connaissaient, qui venaient acheter des produits là, oui. Oui, oui.
Le Sang Rival et autres magasins de Châteaudun pouvaient également avoir des produits Gérard Pasquier chez eux.
Voilà. Oui, oui, parce qu'il y avait donc... Il y avait des laits commerciaux qui partaient de toute la France et même, je pense, qu'ils passaient les frontières. Hein, donc,
ouais. C'était international.
International, oui. C'était vraiment...
Alors, Gérard Pasquier s'est développé à Châteaudun. À l'instant donné, donc, vous êtes monté un effectif de 160 personnes.
Oui.
C'est quand même pas rien, 160 personnes. Non. Vous avez agrandi l'usine.
Oui, oui. Ah oui, ils ont carrément doublé le volume de l'entreprise. Oui. C'était une belle entreprise. Et c'est vrai que pour les femmes, c'était vraiment le métier rêvé, quoi. Parce qu'on travaillait de beaux produits. Et c'était
vraiment... Et vos horaires, c'était...
Les horaires, donc ça devait être 8h midi et puis 1h30...
13h30, oui. 18h, oui. 17h30.
Et une bonne ambiance entre vous.
Oui, on s'entendait très bien. Oui, c'était une bonne ambiance.
Geneviève, vous avez donc, vous, été la coupe. Après, vous avez pris la direction de la coupe.
Alors, donc moi, j'ai démarré en tant que moditrice quand j'étais rue Touffert. Donc, je vaquais un petit peu partout, parce qu'on nous faisait passer partout. Le soir, on restait pour... s'il y avait des réparations à faire ou des petites retouches, on restait plus tard le soir, étant donné qu'on était monitrice avec la contre-maîtresse. Et puis après, donc, je suis tombée enceinte et j'ai... J'ai repris mon poste à Haute de Sangeville. À Haute de Sangeville, j'ai continué sur la chaîne en tant que monitrice. Et après, je suis passée à la coupe.
Et après, vous avez pris la direction de la coupe plusieurs années plus tard.
Voilà. Après, au départ de M. Simonet, donc j'ai repris la coupe. Oui.
Donc ça continue à évoluer, puisque M. Dordogne a pris sa retraite. Il y a eu un nouveau directeur qui a pris le poste. Et puis, à un moment donné, ce directeur vous a confié donc l'ensemble de la direction de la production.
C'est M. Claude Dordogne qui m'avait confié l'ensemble de la direction. Donc j'avais l'ensemble, donc coupe, confection et finition, jusqu'au bout. Ouais.
Oui, parce qu'à l'époque, donc...
Alors, à l'époque, déjà, donc, il y avait une usine qui s'était ouverte à Graça Moda, au Portugal. Et puis, ils commençaient déjà à envoyer de la fabrication aussi en Italie, pour tout ce qui était tricot. Il augmentait sa gamme. Hein, donc, au niveau de la fabrication, il y avait des gammes... Ça, c'était à Bougies. À Bougies, ils faisaient les robes, les ensembles. Saint-Aignan, c'était pareil. La gamme, elle avait augmenté. Donc, et la fabrication se faisait aussi à l'étranger.
Donc, justement, monsieur Donprou était parti souvent dans les usines sous-traitantes. Et c'est vous qui dirigiez donc l'ensemble de cette usine.
Il y avait monsieur Dordogne quand même.
Non, mais il n'était plus là, il avait pris sa retraite. Quand il était parti, et lorsque je me suis retrouvé que monsieur Provost était à Grossa Moda en Italie.
Voilà, c'était moi qui.
Du lundi au vendredi, la direction d'entreprise, toute la fabrication. Et donc, c'était quand même, une usine qui était moderne, puisque vous aviez suivi donc des formations, notamment à Bordeaux, vous êtes allé sur des machines informatisées.
Voilà. Moi, j'étais voir donc au niveau informatique. Donc, on avait le placement, on avait. J'avais été voir à Bordeaux
les établissements.
Chez Electra, donc les placements informatiques, informatisés, et la coupe à l'eau. Oui. Et c'est le modernisme, ça c'est.
Mais c'est vrai que Gérard Pasquet, à l'époque, avait un aura pas possible, puisque je crois que dans les années 87-88, vous étiez toute une équipe là, au défilé de la collection, au fameux hôtel Nico à Paris.
Ah ben oui. Hein,
cette tour de 100 mètres de haut qui est Grenelle, qui est maintenant devenu le nouveau hôtel Grenelle, où vous aviez présenté vos collections.
Oui.
Donc c'était...
Comme tout.
Il y avait beaucoup de mannequins qui présentaient vos collections dans ces défilés.
Mais je peux pas dire.
Il y en avait combien à peu près? Le jour du Nico, là, combien à peu près? Une quinzaine, une vingtaine de mannequins qui pouvaient présenter votre collection.
Oui, de toute façon, il y avait un catalogue qui sortait de façon que les représentants puissent vendre.
Les représentants étaient invités à l'hôtel Nico.
Bien sûrement, oui. Ouais. Oui.
Vous y étiez. Donc,
moi j'étais en tant que...
Invité.
Oui, en tant qu'invité.
Et progressivement, donc, il y a eu un déclin à cause de la concurrence. Est-ce que la marque Gérard Pasquier existe encore? Est-ce qu'elle a été reprise?
Oui, non, elle existe encore. La marque, elle existe toujours.
Mais en France, on ne fait plus de confection de...
Non, en France, il n'y a plus de confection.
Oui.
C'est fait, donc, sûrement...
Alors, ce qu'il y a à noter quand même, c'est que donc Geneviève avait ouvert la porte en 1966 et hélas, elle a fermé la porte en 1992, en novembre 92, alors qu'il y avait un changement de politique.
C'était
un moment douloureux quand même.
C'était très difficile parce que notre usine fonctionnait très bien. Les articles, les chemisiers Gérard Pasquier à Châteaudun étaient un produit qui se vendait facilement, quoi. Il y avait une production énorme. Je pense qu'on avait même dépassé les jupes, je crois. Et Total, ça a été fermé. C'était entreprise qui a été sacrifiée, quoi. Et oui.
C'était un choix douloureux.
C'était un choix
de jeune femme.
C'était un choix douloureux. C'était un peu, enfin. Bon, moi je travaillais dedans, donc je trouvais que c'était un petit peu, voilà, c'était.
Oui, vous avez.
C'était un peu injuste, quoi.
Voilà. Le mot injuste. Pourtant, en terminant sur ce mot, sur le mot injuste, sur la fermeture, on ne parlera pas de la reprise, parce qu'il n'y a pas eu de reprise de Gérard Pasquier, en fin de compte. On ne peut pas dire qu'il y a eu une reprise. Gérard Pasquier, l'entreprise est morte en novembre 1992. Vous avez fermé la porte à clé et c'était fini.
C'était fini.
Voilà. Ouais. Merci Geneviève de ce moment passé avec l'entreprise Gérard Pasquier.
Ouais.